Gloire à Dieu. Nous étudions dans la congrégation le livre des Actes des apôtres. Cette étude nous a conduit à voir l'intention du docteur Luc en rédigeant ce livre. Elle nous conduit également à considérer le fait que le Christ mort et ressuscité s'est présenté aux apôtres pendant 40 jours et plus tard, il est monté aux cieux. Mais avant, au cours de chacune de ses apparitions, il prenait le temps d'entretenir comme il le faisait avant, ses disciples du royaume de Dieu. On a vu en amorce, parce qu'on y reviendra si Dieu veut, on a vu Jésus réitérer la promesse du Saint-Esprit qu'il a faite à ses disciples et en leur disant: Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit de Dieu. Au verset 8, il redit la même chose, il réitère la promesse en disant au verset 8a, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. J'ai fait remarquer que la présence du Saint-Esprit de Dieu était nécessaire à plusieurs égards, dont la motivation, la force, la capacité, la détermination, le courage que les disciples avaient besoin pour entreprendre une œuvre aussi grande que celle de propager l'évangile à ses débuts, de par le monde, mais aussi de codifier la parole de Dieu, hein, la Bible que nous avons en main. Alors, pour ce travail, je disais que la connaissance, la formation, l'expérience, Jésus avait compris que tout cela était nécessaire, mais elle ne suffisait pas. Alors, c'est la raison pour laquelle il a fallu que les disciples attendent la venue de l'Esprit à profusion avant qu'ils débutent leur ministère. Et j'avais dit que pour nous, la leçon est claire, à savoir que quoi que nous sachions, quoi que nous soyons capables de faire, peu importe notre expérience, notre connaissance, ça nous prend le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Ça nous prend l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu en nous pour faire l'œuvre de Dieu. Et je vous avais promis que je reviendrais sur les versets 6 à 7 parce que je n'avais pas élaboré sur les versets 6 à 7. C'était un choix méthodologique que je faisais en parlant du verset 5 et du verset 8a, sans parler du verset 8b et suivant, et sans parler des versets 6 à 7. C'était un choix méthodologique. Maintenant, comme promis, venons-en au verset 6 à 7 de Actes chapitre 1er, où la parole de Dieu dit: Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, hein, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Hein? Les apôtres sont curieux de savoir quand est-ce que le Seigneur rétablira, hein, le royaume d'Israël. Hein? Ils espéraient que le Messie, on l'a regardé quand on étudiait les derniers entretiens et discours de Jésus dans la chambre haute, on a vu que les 16 apôtres, comme le reste d'Israël, comme tout le reste du peuple d'Israël, hein, ils croyaient dur comme fer que le Messie viendrait établir son royaume terrestre. Et ici, on le voit. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils pensaient que le royaume d'Israël, le royaume terrestre, devait s'établir maintenant, immédiatement, sur le champ. Hein? Ils avaient des raisons assez valables pour le penser. Valable ne veut pas dire que leurs raisons étaient les bonnes raisons, mais ça veut dire de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils ont appris. Hein? Et l'œuvre du Messie, hein, qui annonce la fin des temps, s'est accomplie. Le Fils est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Alors, il n'y a pas de raison que le royaume terrestre ne soit pas établi. Hein? Déjà, les disciples d'Emmaüs en Luc 24 étaient très déçus que Jésus n'ait pas racheté Israël et qu'il n'ait pas établi le royaume. Ils en ont parlé. Alors, les apôtres, comme les disciples d'Emmaüs, comme le reste d'Israël, ils connaissent leur Bible. Ils ont lu Ézéchiel 36. Ils ont lu Joël 2. Ces passages leur enseignent que la venue du royaume serait accompagnée, hein, de l'effusion de l'esprit. Leur question n'est pas bête. Ils se réfèrent à leur arrière-plan théologique. Alors, si Jésus vient de réitérer la promesse de l'esprit, ça me semble logique, en tout cas excusable, qu'il demande au Messie, au Fils de Dieu, si c'est en ce temps-là, au temps de l'effusion de l'Esprit, qu'il va rétablir le royaume d'Israël. Il comprenait que la venue du royaume était imminente. Hein? Cependant, Jésus s'empresse de les corriger, de corriger leur théologie. Hein, Jésus s'empresse de les ramener à la réalité en leur disant, ce n'est pas à vous, verset 7, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Hein, il les aime. Il ne veut pas les laisser dans l'erreur. Alors, ils corrigent tout simplement leur vision des choses de Dieu, leur théologie. La Bible, la parole de Dieu, enseigne beaucoup de choses sur le règne terrestre et glorieux de Jésus-Christ. Cependant, la Bible ne dit rien quant au moment exact de l'établissement du règne de Jésus-Christ sur la terre. Dieu, et seulement Dieu, de sa propre autorité, de sa propre souveraineté, a fixé tous les aspects de l'avenir de son royaume. Tout est établi quant aux modalités, quant au moment, quant au quand, quant au comment, quant au pourquoi de la venue du royaume terrestre du Messie. Mais pour les hommes, Dieu décide, hein, que ce temps leur soit inconnu. Hein, cela demeure des choses cachées, hein, une de ces choses cachées que la Bible dit qui sont à l'Éternel, Deutéronome 29, verset 29. Tout ce que les croyants peuvent savoir, c'est que le royaume sera établi lors du retour de Jésus. Dieu n'a pas voulu nous en dire davantage. Et ici, le fait que Jésus ne nie pas, hein, il y a une subtilité dans le texte. Vous l'aurez sans doute remarqué. Jésus ne conteste pas, Jésus ne réfute pas l'attente des apôtres d'un royaume terrestre. Parce que, en ce qui concerne Israël, oui, il y a un royaume terrestre. C'est une vérité établie de la parole de Dieu. Il y aura un royaume terrestre du Fils de Dieu au sens littéral du terme. Il reviendra, il régnera sur la terre. Donc, Jésus ne s'attaque pas à la réalité du royaume terrestre du Messie, qui est très clairement enseigné dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Jésus s'attaque plutôt au fait qu'il pense que c'est maintenant. Maintenant. C'est à l'agenda que Jésus a un problème. La compréhension du royaume promis par Dieu aux enfants d'Israël est correcte. Hein? L'attente d'un royaume terrestre est juste, est conforme à la parole de Dieu. Mais le moment qu'ils conçoivent pour l'établissement de ce royaume, lui, n'est pas correct. Alors, ils se trompaient sur ce point très important, à savoir le temps du royaume. Ah. Alors Jésus a entrepris de corriger leur vision en ce qui a trait au timing, au temps du royaume terrestre. Gloire à notre Dieu. Puisqu'il est impossible de connaître le moment de la venue du royaume, et puisque le Seigneur peut revenir à tout moment, lors de l'enlèvement de l'Église, dont j'ai beaucoup parlé, dans Thessaloniciens 5, le verset 2, les croyants, les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur, sont appelés à être continuellement prêts pour la venue du roi du royaume. L'Église est appelée à se rappeler cet avertissement solennel que le Seigneur donne, entre autres, en Marc chapitre 13, verset 33 à 37, quand le Seigneur dit, prenez garde, veillez, et priez car vous ne savez quand ce temps viendra. Hein? Il en sera, dit le Christ, comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. Hein, c'est exactement ce que Dieu fait. Indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, dit le Seigneur, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Et le Seigneur de rajouter, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, quand est-ce que le Seigneur revient? Ce n'est pas ce qui est nécessaire. Si cela était nécessaire, Dieu nous l'aurait dit. Alors, c'est ce que le Christ semble dire aussi à ses disciples. Ce n'est pas à vous, hein, de connaître le temps que Dieu a fixé. Mais ce n'est pas à moi, ce n'est pas à vous non plus, aujourd'hui, étudiant de la parole de Dieu, enfant de Dieu, serviteur et servante de Dieu, ce n'est pas le temps de nous arrêter aux discussions fallacieuses, aux discussions folles que les gens vont alimenter autour de nous, dans les réseaux sociaux. Hein, j'en ai déjà parlé dans la congrégation, il y a même des hommes de Dieu très importants qui se sont enfargés dans des calculs de dates, d'années. Beaucoup de ces calculs-là n'ont même pas tenu. Et ne se sont, se sont, se sont avérés faux. Et alors, ce n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut, c'est ce que le Christ dit maintenant et que les saints apôtres vont nous dire ailleurs. Pierre va nous dire la même chose, Paul va nous dire la même chose, de nous préparer. Ce qu'il faut, c'est de nous préparer. Alors, n'oubliez pas cela. Et maintenant, je suis en mesure d'enchaîner avec le verset 8b, où la parole de Dieu dit, mais vous recevrez, ça c'est verset 8a, je vous le lis pour vous remettre en contexte. Verset 8a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, verset 8b maintenant, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur est en train de dire à ses disciples, aux saints apôtres, qu'au lieu de se lancer dans des spéculations inutiles sur le temps ou bien sur le moment de l'établissement du royaume terrestre de Dieu, hein, il ferait mieux de se concentrer sur l'œuvre que Jésus leur avait confiée. Il serait mieux de se concentrer sur les révélations que Jésus leur fait, leur donne sur leur mandat. Hein? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? Le mot témoin, j'en ai glissé un mot la fois passée, quand je prêchais mon deuxième message de Pâques, le mot témoin fait référence à des personnes qui voient quelque chose, qui voient un événement, un incident, qui voient une situation. C'est ça un témoin. Hein? Un témoin, c'est quelqu'un qui voit quelque chose et qui le raconte à d'autres. Hein? Israël était un témoin de Dieu auprès des nations. Hein? Et le Christ fait de nous, fait de son Église, son témoin devant les hommes. Hein? Jean sait Hein? Jean explique ce qu'est un témoin quand il dit en 1 Jean 1er, verset 1er et 2a, l'apôtre Jean nous explique ce qu'est un témoin quand il dit, lui était un témoin, les saints apôtres étaient des témoins. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, voyez-vous, c'est ça un témoin. Nous avons entendu, nous avons vu de nos yeux, nous avons contemplé, nos mains ont touché ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, gloire à Dieu. Et nous vous annonçons la vie éternelle. 1 Jean 1, voilà pour une description de la réalité de apostolique du témoin. Hein? Quelle belle description que nous avons avec Jean dans 1 Jean 1er, verset 1er, 2a. Un témoin de Jésus-Christ, c'est vous, c'est moi. C'est eux autres, c'est les autres sœurs, les autres femmes de Dieu qui étaient avec eux au tombeau, dans le jardin, à la croix, dans la chambre. Ce sont ces gens, hein, ces bien-aimés, ces gens qui ont vu le Seigneur à l'œuvre, qui l'ont vu agir, qui l'ont vu faire, qui l'ont vu pardonner, guérir, sauver, exorciser, qui l'ont vu prier. Gloire à notre Dieu. Hein? Un témoin, c'est simplement quelqu'un qui proclame la vérité au sujet de Jésus. Alors vous êtes un témoin, puisque vous connaissez la vérité de Jésus. Vous n'avez pas vécu avec lui en chair et en os, comme ce fut le cas de ces hommes-là dont nous parlons. Mais n'empêche que vous connaissez sa parole. Vous êtes un témoin auriculaire du Messie, du Fils de Dieu. Vous connaissez la vérité concernant sa naissance, son incarnation, sa mort, sa résurrection, sa vie, son ascension. Vous en connaissez pas mal de choses. Il vit en vous. Alors, vous pouvez proclamer la vérité de votre expérience à son sujet. Hein? Les apôtres, Pierre n'est pas en reste. Hein? Ils ont fait remarquer qu'ils ont vu la majesté de Jésus. Toi aussi, tu as vu sa majesté. En tout cas, tu as expérimenté sa majesté, sa royauté, en ce qu'il a changé votre vie. Hein? Alors, les apôtres ont besoin de la force de l'esprit pour proclamer la vérité concernant le Christ, ce qu'ils savent concernant le Christ. Hein? Et on a vu, vous et moi, à quel point le Saint-Esprit, Dieu fait les choses, à quel point le Saint-Esprit était nécessaire. Hein? La puissance du Saint-Esprit est survenue pour les galvaniser. Hein? Ils avaient besoin de la force, de la puissance, de la direction du Saint-Esprit pour proclamer ce qu'ils savent à propos du Christ. Et on a vu à quel point leur ministère était efficace. Dans le grand mandat, dans ce qu'on appelle, on retient sous le nom de grand mandat dans la littérature évangélique, Matthieu 28, verset 19 à 20, bon, dans le grand mandat, Jésus commande à tous ses disciples, à tous les croyants, d'être ses témoins. Hein? Dieu a toujours ce besoin de témoins, Dieu a toujours ce besoin de témoins. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Hein? C'est un appel au témoignage. C'est un appel à une vie de témoin qu'on a ici. Et voici, je suis avec vous tous les jours, et cela jusqu'à la fin du monde. Avez-vous remarqué que, quand vous considérez l'exemple d'Israël, et quand vous considérez l'exemple des saints apôtres, et quand nous considérons l'appel qui nous est adressé ici ou ailleurs, vous et moi, nous n'avons pas choisi d'être des témoins. Nous n'avons pas choisi d'être des témoins. Et nous n'avons même pas à choisir d'être des témoins. Nous sommes des témoins par le fait même, par défaut. Parce qu'on est chrétien, parce qu'on est enfant de Dieu, on est automatiquement des témoins. C'est notre position qui fait de nous des témoins. C'est notre vocation, c'est notre appel, notre situation d'enfant de Dieu, notre statut, hein, d'enfant de Dieu. C'est un package, c'est un kit qui fait de nous des témoins. C'est-à-dire que nous sommes des bénéficiaires de la grâce, nous sommes des récipiendaires de la grâce et nous sommes des instruments de grâce. Ah, ce n'est pas une question de choix. Ouais, qu'à moi, si nous passons à nous, pas parler de mon Dieu autour de nous. Ouais, j'aime d'Abdoula, comme me dit, moi, je me suis songé. Hein, quand je vous parlais de Paul qui dit que nous avons un ministère d'ambassadeur, nous n'avons pas choisi d'être des ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous le sommes. Nous constatons que nous le sommes. Si nous ne l'exerçons pas, c'est autre chose. Mais nous le sommes par le fait même que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à notre Dieu. Et pour que l'Église annonce au monde perdu la bonne nouvelle de l'Évangile, bon, hein, les croyants ont besoin de sanctifier leur cœur, de sanctifier dans leur cœur que Jésus est Seigneur. 1 Pierre 3, verset 15. Pour que l'Église annonce au monde perdu la bonne nouvelle de l'Évangile, nous avons besoin de sanctifier dans nos cœurs le Seigneur, étant toujours prêt à nous défendre avec douceur, hein, cela dit, avec douceur et respect, hein, cela dit, hein, devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. C'est une autre manière de nous dire que nous sommes témoins. C'est un autre appel à l'évangélisation. Hein? C'est un autre appel à l'évangélisation, à exercer le grand mandat ou notre fonction d'ambassadeur. C'est l'apôtre Pierre, oui, qui dit ça, en Pierre 3, verset 15. Nous sommes appelés à sanctifier dans nos cœurs que Christ est Seigneur, étant toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Gloire à Dieu. Paul dit, à son tour, l'apôtre Paul dira que les chrétiens doivent vivre de manière que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Ils nous disent que les chrétiens sont appelés à vivre de telle manière que l'adversaire de la foi chrétienne soit confus, n'ayant aucun mal. Alors, c'est Pierre plutôt. N'ayant aucun mal à dire de nous. Verset 8, 1 Pierre chapitre 3. Et il ajoute, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur, au verset 10, pour que l'évangile du salut soit reçu de tous. Alors, je vous parle de ces mandats, de ces versets-là, une manière de vous dire que, en étant des témoins, mais il y a aussi un ensemble d'éthiques qui doivent accompagner notre statut, notre vie de témoin. C'est à peu près ces quelques versets-là qui nous l'indiquent. Et c'est en raison de cela que je vous les partageais. OK? Pas oublié, non, là. Donc, depuis que Pasteur a commencé à parler là, à la suite du Christ, il nous rappelle notre fonction d'ambassadeur, de témoin de Jésus-Christ. Et j'ai parlé aussi de l'importance de la préparation pour le retour du Seigneur. Nous y reviendrons d'ailleurs. Et j'ai parlé aussi de dans quel état d'esprit que nous devons aborder la question, eh bien, de l'établissement du royaume de Dieu. Ce n'est pas le moment qui devrait nous intéresser, mais plutôt dans quel état d'esprit est-ce que nous sommes prêts à le recevoir, à l'accueillir, à aller à sa rencontre, soit dans la mort ou s'il était venu ce soir. Maintenant, revenons au texte. On était à quelques extrapolations et aussi à quelques éléments d'application, ce qui est tout à fait correct. Maintenant, revenons au texte. Il y a toujours verset 8b. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem. Et en commençant par Jérusalem. Alors, les apôtres sont appelés à commencer par Jérusalem. Ils accompliront leur mandat de témoigner la vérité concernant la parole de Christ et sa parole, à commencer à Jérusalem. Et à partir de Jérusalem, leur témoignage va s'étendre dans toute la Judée, gloire à Dieu, dans la Samarie. La Samarie, eh bien, c'est une province voisine. Hein? C'est comme si tu t'es dit Toronto à Montréal, non, pardon, Québec, et vous t'es dit Ontario, bien n'importe l'autre. Hein? C'est une province voisine. Hein? Leur témoignage va s'étendre de Jérusalem. Hein? Ça commence par Jérusalem. Et le témoignage va se répandre dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? Alors, vous l'aurez remarqué, le Acte chapitre 1er, verset 8b, nous donne le cadre, hein, le cadre général, hein, du livre des Actes. Il nous donne le plan général du livre des Actes. C'est ce plan que le docteur Luc va suivre pour nous raconter les débuts de l'Église. L'Église à Jérusalem, l'Église dans la Samarie, l'Église à Judée, l'Église jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le plan, hein? C'est à la fois, voyez-vous, une sorte de mariage entre l'histoire et la géographie. Hein, c'est ça le plan du livre des Actes. Il va développer, il va déployer le développement de l'Église, l'histoire de l'Église à travers l'Évangile Kaplagikoli depuis Jérusalem, qu'on va passer pour en Judée, qu'on va passer pour en Samarie. C'est ça qu'on va raconter là, justement. C'est ça qu'on va raconter. Donc, ce verset nous donne le plan du livre en même temps. Et il nous donne le parcours, le cheminement de l'évangile de grâce sur la terre, hein, dans les cœurs, auprès des peuples de la terre. Et c'est justement ça qu'on va raconter là, jusqu'à la fin du livre. Gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, la responsabilité de témoigner pour Christ demeure entière. Nous sommes des témoins. N'importe côté nous y est, nous sommes des témoins. Que le Seigneur nous fasse la grâce de continuer d'en être conscient et d'exercer notre ministère de témoin avec zèle, avec dévouement, avec amour et je dirais même, j'allais dire, avec patient, avec courage, avec courage aussi, avec détermination, parce que ce n'est pas un ministère facile. Ce n'est pas un ministère facile. Alors, et ce n'est pas pour seulement pas facile. Toi, des frères et sœurs, dans l'union, on va parler, Tout le monde reconnaît que ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut que nous partons nous gagner gros moyens pour faire ministère ça. Chaque côté, dans les petits côtés, tiens, doit côté, petit côté au passé, on demande de vous le faire grâce, pour capable de dire deux mots pour lui. Quand ça arrive devant lui dans le ciel là, vous n'aurez point à rougir. Eh bien, je crois que nous sommes mieux pour passer au verset 9. Ah, c'est pas mal, il est 39, gloire à Dieu. Ah, je vous lis les versets 9 à 11. On est toujours à Actes chapitre 1er. Je viens de terminer avec les versets 1 à 8b. Et là, nous sommes en mesure d'enchaîner avec les versets 9 à 11 à la gloire du ressuscité, frères et sœurs. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Je me rappelle que j'avais abordé ce texte avec vous quand je venais de débuter l'étude de l'Apocalypse avec vous. Ah, babli an yè mwen avon. Babli an yè mwen wè avon. Et ben, en tout cas. Alors voilà. La Bible dit ici que Jésus fut élevé pendant que les disciples le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Ce concept d'enlever ou d'élever, enlever ou élever, nous l'avons au verset 2, nous l'avons au verset 11 du chapitre 1er, et nous l'avons au verset 22. Hein? Nous l'avons au moins trois fois. Cela veut dire que Jésus fut élevé au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité est au ciel. Et après ses souffrances, après sa mort, après sa résurrection, et pour la foi et la doctrine, pour l'histoire et la vérité, après s'être montré à plusieurs reprises à ses disciples, à son monde, à ses saints, à ses bien-aimés, il est monté aux cieux. Gloire à Dieu. Dans son corps glorieux, dans son corps de ressuscité, dans son corps de résurrection, le Seigneur, le Fils de Dieu, a quitté ce monde de péché, d'iniquité, où il avait accepté de venir vivre en chair et en os pour le royaume céleste. Il a pris sa place. Il a réintégré sa gloire éternelle. Il a réintégré son trône à la droite de Dieu le Père. Quelle vérité glorieuse! Nous servons un Seigneur mort, certes, mais un Seigneur ressuscité, un Seigneur assis sur son trône glorieux, un Seigneur qui intercède pour ses enfants, pour son Église, pour son épouse. Gloire à notre Dieu. Sur le mont des Oliviers, les apôtres, ces hommes de Dieu, étonnés, stupéfaits, choqués, avaient les regards fixés vers le ciel, nous dit le docteur Luc, pendant que Jésus s'en allait vers son Père. Et le docteur Luc nous raconte par les témoignages qu'il a recueillis, qu'il a collectés, par les données de recherche qu'il a collectées. Le docteur Luc de nous raconter, de nous faire savoir que c'est alors que deux hommes, mais en réalité, vous l'aurez compris, deux anges, hein? Deux anges décrits comme deux hommes vêtus de blanc. Mais ces deux saints anges de Dieu apparurent soudainement à nos frères, les apôtres, et leur demandent, hommes galiléens, pourquoi, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Les anges les ont appelés, ont appelé les saints hommes de Dieu, les saints hommes de Dieu, les saints apôtres, les deux anges qui leur sont apparus comme étant sous une apparence d'homme vêtu de blanc. Il les appelle hommes galiléens parce que tous les apôtres, c'est Moun Galiléen. Oui. Seul Judas pas Moun Galiléen. Tout l'autre monsieur, c'est Moun Galiléen. Hein? Ils sont de la région de Galilée. Hein? C'est pour ça qu'il les appelle hommes galiléens. Hein? Alors, la question des saints anges apparaissant sous une apparence d'homme vêtu de blanc. La question qu'il pose à savoir aux saints apôtres, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est un mini reproche. C'est un petit reproche. Hein? C'est un reproche diplomatique. C'est-à-dire que les saints anges posent cette question aux saints apôtres en raison de la manière dont ils regardent Jésus s'en aller, en raison de la manière dont ils contemplent la montée aux cieux du Fils de Dieu. Hein? Ils le regardaient éperdument, ils le regardaient un peu avec un sentiment de perte, un sentiment de désespoir. Hein? La manière dont les saints apôtres regardaient le Seigneur s'en aller, filer sous leurs yeux au ciel, vers son trône, le trône du Père, c'est comme si, d'après les saints apôtres, ils perdaient Jésus. Oh mon Dieu, c'est pas drôle. C'est comme si ils craignaient tout au moins de perdre Jésus. Est-ce qu'on le verra? Est-ce qu'on le reverra? Est-ce que c'est pas fini de nous avec lui? Et les saints anges ont compris cela. Hein? Ils ont compris cela. Ils sont pas omniscients, mais ils ont compris cela. Les saints anges ont compris ce sentiment de perte qui habitait les saints apôtres. Ils ont compris ce sentiment de désespoir. Hein? Ils ont compris leur questionnement quant à l'idée, est-ce qu'ils reverraient le Seigneur? Voilà pourquoi il leur demande, à titre de reproche voilé, à peine voilé, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela ne devrait pas arriver. il n'aurait pas dû s'arrêter à regarder au ciel de la manière, avec le sentiment qu'il le faisait. Il ne devrait pas avoir un sentiment de perte concernant le Christ qui part. Il ne devrait pas avoir un sentiment de découragement. Ils ne devaient pas avoir eu la crainte de perdre leur Seigneur alors qu'ils montaient au ciel, au contraire. Il leur a tant parlé. Il leur a tant expliqué la chose. Ils n'auraient pas dû. C'est la raison pour laquelle les saints anges questionnent leur attitude. Pourquoi? Ils sont des hommes de Dieu. Mais comme quand ils demandaient au Christ, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Encore une fois, ils ne sont pas à la bonne place. Ce n'est pas grave. Ce sont des hommes de Dieu. Dieu les aime comme cela. Mais encore une fois, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas saisi. C'est les saints anges. Il est venu les consoler, certes. Mais avant, il les a reprochés de n'avoir pas compris quelque chose. Ils ne devraient pas être en état de choc. S'ils avaient bien capté l'enseignement du Christ, s'ils avaient bien capté les promesses du Christ, les promesses du Père concernant le Fils, ils devraient savoir que ce Jésus qui a été enlevé du milieu d'eux viendra ou viendrait de la même manière qu'ils l'ont vu allant au ciel. En paraphrase, les saints anges sont en train de dire aux apôtres, il vous avait dit qu'il mourrait et qu'il ressusciterait 3 jours après son ensevelissement. Cela ne s'est-il pas produit? Cela n'est-il pas arrivé? Ne venez-vous pas de constater que il est ressuscité? Alors, pourquoi êtes-vous dans l'abattement maintenant que vous le voyez s'en aller? Vous devriez au moins comprendre que de même qu'il est ressuscité, comme il l'avait promis, comme il l'avait dit, eh bien, le Messie enlevé, sous vos yeux, reviendra comme Dieu l'a promis. Et les saints anges, pour consoler les saints apôtres, soulignent très clairement que ce même Jésus qu'il voit monter au ciel reviendra un jour de la même manière qu'ils l'ont vu allant au ciel. Le Seigneur reviendra dans son corps glorifié, accompagné d'une nuée, tout comme lors de son ascension sur le mont des Oliviers. C'est ce que nous enseigne Zacharie 14, verset 4. Et pour nous, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, chers amis visiteurs, le cas échéant, pour nous, les enfants de Dieu qui marchons avec le Seigneur, pour nous, les enfants de Dieu qui devons affronter souvent de fois de terribles épreuves sur le chemin de la vie, cette promesse que le Seigneur reviendra est un encouragement pour nous. Dans nos épreuves, dans nos maladies, dans nos détresses, dans nos fardeaux, avec nos poids si pesants sur les épaules, avec tout ce que nous ne contrôlons pas. Ouh! Quel encouragement pour vous, l'Église du Seigneur, quel encouragement pour moi de savoir que ce même Jésus qui est mort, ressuscité, qui est monté aux cieux, reviendra un jour comme aujourd'hui pour essuyer les larmes de nos yeux, de mes yeux, de vos yeux. Quelle grâce, quelle espérance. On l'a vu tout à l'heure. Personne ne sait quand est-ce que le Seigneur reviendra. Mais nous savons tous, à la lumière de l'enseignement de la parole de Dieu et à la lumière de ce passage, de cette proclamation des saints anges, que le Seigneur reviendra. Ainsi, comme je le disais tout à l'heure, je vous avais dit que j'y reviendrai. Et je reviendrai encore, encore et encore. Ainsi, frères et sœurs, mes bien-aimés, nous devons tous continuer à demander à Dieu de nous faire la grâce de vivre chaque jour qu'il nous donne à passer sur la terre en pensant à son retour. Nous devrions nous demander la grâce de vivre dans la préparation de son retour, de notre rencontre avec lui. L'enseignement concernant le retour du Seigneur doit être pour chacun de nous un encouragement à le servir chaque jour davantage et mieux, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. Saint Paul n'a-t-il pas écrit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Dans l'Apocalypse, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, chers amis visiteurs, le cas échéant, le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Alors, les enfants de Dieu, les croyants, les hommes et les femmes de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu que nous sommes, frères et sœurs, nous sommes appelés à servir le Seigneur, à continuer à servir le Seigneur fidèlement, sans relâche, malgré les facteurs, les multiples facteurs de découragement. Oh, malgré les difficultés qui jonchent notre parcours, notre cheminement, notre pèlerinage, à continuer à le servir fidèlement à la lumière de son retour imminent, frères et sœurs. Le Christ ne nous a-t-il pas donné cet avertissement solennel en Jean 16, verset 15, en disant, voici, je viens comme un voleur. 1 Jean 2, verset 28. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Ah, veillez. Veillez, l'oratoire. Ah, veillez, madame. Veillez, monsieur. Veillez, pasteur. Veillez, leader. Veillez. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Gloire à Dieu. La tâche est immense, l'oratoire. La tâche est difficile, mais écoutez-moi, le Seigneur de grâce, le Seigneur de miséricorde, vous a donné toutes les ressources nécessaires dont vous avez besoin pour veiller, gloire à Dieu, et pour accomplir la tâche. Merci Seigneur. Il suffit pour chacun de nous, enfants de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu, de nous approprier les ressources que Dieu met à notre disposition et les utiliser, frères et sœurs. Et le Christ nous a donné un bon exemple quand il dit en Jean 9, verset 4, ah, votre pasteur aime à vous dire que Christ nous donne un exemple de pasteur, comment on est pasteur, et il nous donne un exemple de comment on est fidèle, gloire à Dieu. Il a vécu une vie de fidèle, fidèle, et il a vécu une vie de pasteur fidèle. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui, c'est-à-dire le Père, de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Où personne ne peut travailler. S'il y a quelque chose que nous voulons faire, que nous pouvons faire pour le Seigneur, c'est maintenant, pendant nos paupières, pendant paupières nous ouvertes, les paupières nous fermées, et à faire le monsieur, donc, monsieur, femme, yo, yo campé dans l'église. Il a chanté, il a monté des sangs, il a fait agape fraternel, il a fait des pasteurs dans le travail là, il a monté des sangs, il a fait audiovisuel, il a fait ci, il a fait ça. Il dit, Seigneur, voilà des gens qui vivent dans l'attente de ton retour. Voilà des gens qui comprennent la signification du travail. Voilà des gens qui comprennent qu'est-ce que ça veut dire veiller.
Nous avons payé Dimni, nous avons servi Seigneur, l'étude biblique là, la prière là, là. Dimanche matin, s'il n'y a pas de nécessité pour aller ailleurs, là. Hein? Et puis, on a trempé dans la parole de Dieu, on a trempé dans la prière, on a trempé dans le mouvement des femmes, on a trempé dans le mouvement des hommes. Et puis, c'est tout, oui. C'est ça préparé. On va pas le rédiger, on va le payer l'argent. Non. C'est que de tout cœur, pour le royaume, dans l'attente du Fils de Dieu, les relots ou dit l'âme présent. Vous comprenez? Les relots ou l'âme présent. Quoi pas bon ou l'âme présent. À genoux pas bon, épaule là pas bon, mais à pas bon, tête là pas bon ou là. Mais voilà, on est en chemin. Votre pasteur peut témoigner pour vous, en tout cas. Toujours des exceptions, mais vous êtes dans votre chemin. Il y a des fois, on regarde et on dit, ah, heureusement, la récompense va venir. On regarde et on dit, ah, si. On regarde nous, là, ma prière, là, ma prêche, on regarde. Si on regarde, on pense qu'on va venir. On est malheureux. Mais on regarde et on dit, bon, Seigneur, heureusement, on connaît. On est convaincu que la récompense va venir. Voilà, 21 h, soyez bénis.
Amen.